Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Comme il sortait le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Il répondit, « Qui t'a fait chef et juge sur nous ? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Il se dit, « Ainsi la chose se sait. » Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon, et il vint s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. Une quarantaine d'années se sont écoulées entre le verset 10 et le verset 11 qui commence notre passage ce matin. Au verset 10 que nous avons considéré la dernière fois, il est question de l'adoption de Moïse par la fille de Pharaon, après qu'il eut grandi, dit le texte. Nous ne savons rien des premières années de la vie de Moïse, si ce n'est que sa mère, Jochébède, qui a fait office de nourrice jusqu'au jour où, suffisamment grand, Moïse a été amené à la fille de Pharaon qui l'a adoptée. Le texte de l'Exode ne dit rien de ce qui s'est passé ensuite jusqu'à ce jour dont il est question ici au verset 11, où il est question de cette visite de Moïse à ses frères hébreux. Si le livre de l'Exode ne dit rien, celui des Actes dans le Nouveau Testament nous offre en revanche quelques détails intéressants. C'est Étienne, dans son discours au chapitre 7, qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire les choses dont nous allons faire la lecture maintenant. Alors, tu peux essayer de cliquer sur la... Ah, c'est bon. Merci. Acte 7, versets 20 à 25, et ensuite jusqu'au verset 29. En ce temps-là est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été élevé 3 mois dans la maison de son père, et quand il a été abandonné, la fille de Pharaon l'a recueilli et l'a élevé comme son fils. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. Lorsqu'il a eu 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, il a pris sa défense et il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Ses frères comprendraient, pensaient-ils, que Dieu leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il leur est apparu alors qu'ils se battaient. Il a essayé de les réconcilier, de leur faire faire la paix, en disant « Vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son frère l'a repoussé en disant « Qui t'a fait chef et juge sur nous ? Veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as supprimé l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse s'est enfui pour s'exiler au pays de Madian, où il a engendré 2 fils. Qu'apprenons-nous dans ce texte des Actes sur Moïse ? Nous apprenons qu'il avait 40 ans révolus au moment de l'histoire qui nous intéresse ce matin. Moïse est donc à ce moment-là de sa vie un homme dans la force de l'âge. Un homme d'une certaine expérience et d'une expérience certaine. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte des Actes, ce sont les précisions qui sont apportées sur les 40 premières années de la vie de Moïse, dont le texte de l'Exode ne dit rien. Versets 21 et 22, « Et quand il a été abandonné, la fille de Pharaon l'a recueilli et l'a élevé comme son fils. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. » Moïse a été élevé comme un prince d'Égypte, comme le fils de la fille de Pharaon, dit le texte. Cela veut dire que son adoption ne s'est pas faite au rabais. Certains historiens de l'Antiquité pensent même, mais c'est invérifiable, qu'il était le successeur désigné du pharaon de l'époque. Nous apprenons ensuite dans le texte des Actes que Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Est-il nécessaire de faire le catalogue de la science des Égyptiens ? L'archéologie, et en particulier l'archéologie moderne, a montré et démontré depuis longtemps combien ce peuple, qui dominait le monde d'alors et qui l'a dominé pendant des siècles, combien ce peuple était instruit. Les Égyptiens excellaient dans les sciences, dans les arts, dans la littérature, dans la philosophie, dans la médecine, dans l'astronomie, et j'en passe. Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, dans toutes ces choses. Moïse a certainement appris l'art de la guerre. Il n'est pas impossible qu'il ait pris part à des combats, qu'il les ait même commandés. C'est en tout cas ce que l'historien Joseph et Eusèbe racontent au sujet de Moïse, qui, devenu grand selon eux, commanda les armées de Pharaon dans une guerre contre les Éthiopiens, qu'il défit et prit Saba, leur capitale. La Bible ne mentionne pas ces choses, mais elles sont tout à fait plausibles. Quoi qu'il en soit, Moïse a reçu une éducation sophistiquée, une éducation de haut vol, très certainement ce qui se faisait de meilleur, de mieux, dans le monde d'alors. Et il n'est donc pas étonnant que le texte biblique dise que Moïse était un homme puissant en parole et puissant dans ses œuvres. Peu d'hommes sur terre étaient à l'époque aussi instruits que Moïse. Si Moïse est égyptien par son adoption et par son éducation, ses racines sont ailleurs. C'est du sang hébreu qui coule dans ses veines. Et Moïse le sait. Comment le savons-nous ? Nous le savons parce que le texte précise au verset 11 que ce jour-là, Moïse se rendit auprès de ses frères et qu'il vit un Égyptien qui frappait l'un de ses frères. À l'évidence, son adoption ne s'est pas faite en lui cachant ses origines. Moïse sait d'où il vient. Il sait qu'il fait partie de ce peuple opprimé, qu'il voit souffrir jour après jour depuis 40 ans. C'est sans doute pendant les premières années de sa vie, au contact de sa nourrice qui était sa mère, que les bases de cette connaissance ont été posées. De plus, il n'est pas complètement exclu que Moïse ait pu garder au fil des années un certain contact avec sa vraie famille. La Bible ne le dit pas, mais on peut imaginer cette possibilité. Pourquoi Moïse est-il allé voir ses frères hébreux ce jour-là ? Le texte ne le dit pas. Mais la suite du récit et ce qu'en dit le livre des Actes nous donne un indice et nous amène à comprendre que Moïse avait en tête d'aider son peuple. Était-ce une conviction personnelle ? Jaillissant de sa compassion pour les siens ? Était-ce un appel que Dieu avait mis dans son cœur ? Était-ce les deux à la fois ? nous n'avons pas plus de détails. Par contre, nous devinons que quand Moïse voit l'Égyptien maltraiter et frapper un Hébreu, un de ses frères, il voit là l'occasion d'agir. L'occasion peut-être qu'il attendait depuis un certain temps, l'occasion de renverser la vapeur. Et c'est ainsi, après s'être assuré que personne ne le voyait, que Moïse frappe à mort cet Égyptien. Pourquoi ai-je suggéré que Moïse avait déjà en tête d'aider son peuple, d'aider à sa libération? Parce que le livre des Actes nous donne des précisions qui vont dans ce sens. Lorsqu'il a eu 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, il a pris sa défense, il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Verset 25, ses frères comprendraient, pensaient-ils, que Dieu leur donnait le salut par son entremise. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, Moïse est retourné auprès de ses frères. Il envoie deux qui se querellent et il s'interpose. Il essaye de leur faire entendre raison. Il intervient, pensant que ses frères avaient compris ses intentions. Que ses frères avaient compris que Dieu allait leur donner le salut par son entremise. Et comment auraient-ils compris cela si ce n'est par ce qui s'était passé la veille? Moïse se sent, se croit, se sait, sans doute, peut-être, investi d'une mission. Il est convaincu qu'elle est une évidence pour les autres. Il est convaincu que ses frères hébreux vont voir en lui l'homme providentiel, l'homme que Dieu a choisi pour être le libérateur de son peuple. Mais ce n'est absolument pas ce qui se passe. Et pour dire un peu les choses trivialement, Moïse se prend un vent. « Pour qui te prends-tu ? » lui dit en essence l'un des deux Hébreux en le repoussant. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et puis le vent tourne à la grosse bourrasque force 9 quand il ajoute, veux-tu me supprimer, toi, de la même manière que tu as supprimé l'Égyptien hier? Deux théories ici, pour la manière dont les choses se sont passées au moment du meurtre de l'Égyptien. Soit Moïse a attendu d'être tout seul pour agir en cachette, en regardant bien autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait faire alors qu'il tuait cet Égyptien, soit, puisqu'il est convaincu qu'ils vont comprendre ses intentions, il a agi devant l'Hébreu que l'Égyptien maltraitait, en regardant bien autour de lui pour s'assurer qu'aucun Égyptien n'était le témoin de ce qu'il s'apprêtait à faire. En fait, peu importe la manière dont les choses se sont passées, ce qui importe, c'est que la chose se sait. Elle est connue des Hébreux et elle le sera bientôt de Pharaon. Je reviens au texte d'Exode 2. Il répondit, « Qui t'a fait chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, il se dit, « Ainsi la chose se sait. » Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. En un instant, tout s'est effondré. Moïse a tout perdu en un instant. De prince d'Égypte, il est passé à fugitif, à traître, à homme à abattre. Et l'un des hommes les plus puissants d'Égypte, des plus puissants d'Égypte d'alors, vacille, chancelle, prend peur. Rien ne se passe comme il l'avait imaginé. Son meurtre n'est pas le catalyseur du ralliement de son peuple. Son meurtre est de notoriété publique. Son meurtre va parvenir aux oreilles de Pharaon qui va chercher à le tuer. Sa vie est en danger. Moïse doit fuir et il fuit au pays de Madian. Ce sera une longue et éprouvante traversée, très certainement. Traversée du désert, bien évidemment, pour y arriver. Traversée du désert au sens propre comme au sens figuré. C'est environ entre 300 et 400 kilomètres de désert pour se rendre de l'Égypte, là, on ne sait pas trop où il était, hein, quelque part par là, pour se rendre au pays de Madian qui est ici. 300 à 400. Il fallait mettre de la distance entre lui et Pharaon qui cherchait à le tuer. Après ce rapide survol des événements, j'aimerais maintenant faire ressortir quelques leçons de ce texte, et en particulier sur la manière de servir Dieu, sur le service de Dieu auquel Dieu nous appelle tous. Et la première leçon, je la formulerai ainsi: au service du Seigneur, la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. C'est bien évidemment vrai dans tous les domaines de la vie, pour autant que l'on ait quelques principes. Si le fond est important, la forme l'est aussi. Si le but à atteindre est important, le chemin par lequel nous passons pour y arriver est important aussi. Dans tous les domaines et dans la vie chrétienne aussi, la tentation des raccourcis existe. La tentation de la fin qui justifie tous les moyens existe aussi. Clairement, le meurtre de l'Égyptien n'était pas le bon moyen d'amener la délivrance du peuple hébreu. C'était même un moyen condamnable. Et bien évidemment, Dieu ne l'avait pas demandé. Et bien évidemment, Dieu ne cautionnait pas ce que Moïse avait fait. La fin ne justifie pas les moyens. Dans la même veine, nous pouvons dire ici qu'une juste motivation, et celle de Moïse l'était certainement, celle de vouloir aider son peuple, une juste motivation ne suffit pas pour servir le Seigneur. Et surtout, elle ne justifie pas tout. Vouloir aider son peuple était une bonne chose, mais cette juste motivation de Moïse ne l'autorisait pas à prendre la vie de cet Égyptien, aussi méchant soit-il. Parfois, si nous ne veillons pas dans nos propres vies, nous pouvons constater qu'une bonne et juste motivation peut nous amener à faire de mauvaises actions. Ainsi, la compassion ne suffit pas et ne justifie pas tout au nom de la compassion. Ainsi, la proclamation de la vérité, par exemple, ne justifie pas tous les excès pour y parvenir. Ce n'est pas pour rien que Paul aux Éphésiens dit de dire la vérité dans l'amour. Dire la vérité, c'est bien, c'est important, c'est indispensable, mais je ne suis jamais dispensé de le faire avec amour, dans l'amour. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que je peux assommer l'autre avec. Dans la vie en général et au service de Dieu en particulier, la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Et Moïse n'avait pas encore compris cela, il le comprendra. Mais à ce stade de son histoire, pas encore. La deuxième leçon que j'aimerais souligner, c'est que servir Dieu doit toujours, ce sont des évidences, mais qu'il est bon de rappeler parfois, servir Dieu doit toujours se faire dans sa volonté et pas la nôtre. C'est un peu une autre manière de dire ce que nous venons de dire, mais pas tout à fait. Clairement, Dieu voulait délivrer les Hébreux. Il voulait les délivrer pour en faire son peuple. Mais clairement aussi, la manière de faire de Moïse et le temps choisi n'étaient pas les bons, n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Moïse a agi par la chair, sous l'impulsion de la colère. La colère qui est toujours mauvaise conseillère, et comme le dit l'apôtre Jacques, qui n'accomplit jamais la justice de Dieu. Qui n'accomplit jamais la justice de Dieu. Moïse a-t-il recherché la face de Dieu avant d'agir ? Nous pouvons fortement en douter. Car à ce stade, Moïse savait bien peu de choses de ce Dieu des Hébreux qui allait un jour se révéler à lui au buisson ardent. Mais à ce stade, que savait-il ? De Ré, d'Osiris, d'Anubis, oui, là, il devait en savoir des kilomètres, mais du Dieu des Hébreux, combien il est facile pour nous de foncer pour servir Dieu, sans prendre le temps de chercher sa face, sans prendre le temps de prier, sans prendre le temps d'apprendre à connaître Dieu dans sa parole, sans prendre le temps d'apprendre à connaître sa volonté. Combien il est facile pour nous de brûler les étapes et d'oublier qu'il y a toujours, et même au service de Dieu, un temps pour tout. Il y a toujours un temps opportun pour accomplir sa volonté. Il y a des temps de formation qui sont nécessaires et l'action n'est pas la seule chose qui compte au service de Dieu. On aime bien agir, n'est-ce pas ? Et parfois on pense que seule l'action est importante. Combien il est facile pour nous de n'en faire qu'à notre tête, de foncer. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait tous, je pense. Après, on demande au Seigneur de bénir, de rattraper le coup quand ça nous a mis dans une impasse, de venir à notre secours. Combien il est facile de ressembler à Moïse qui a voulu servir Dieu en faisant sa propre volonté. Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu de grâce. Et dans sa grâce, il arrive parfois que le Seigneur bénisse même nos agissements insensés. Je ne sais pas comment il fait pour rattraper le coup, mais il le fait. Parfois, le Seigneur bénit nos manques de sagesse. Parfois, il bénit notre manque de prière. Mais attention, n'allons pas trop loin dans le raisonnement et ne faisons pas de ces manquements une espèce de règle, une espèce de routine. Au risque de mépriser la grâce de Dieu, comme ces personnes auxquelles l'apôtre Paul fait allusion dans les Romains au chapitre 6, qui disent « Péchons pour que la grâce abonde, péchons encore plus pour que la grâce surabonde. » Si Dieu fait grâce parfois malgré nos manquements, ça c'est sa grâce, il arrive aussi qu'il permette que nous traversions des déserts. Il permet aussi parfois que nos manquements nous conduisent au désert. Et c'est la leçon suivante que j'aimerais mentionner. Le temps du désert est parfois nécessaire pour mieux servir Dieu. L'échec conduit parfois au désert, mais le désert n'est pas toujours un échec. Parfois, Dieu se sert du désert comme d'une école pour notre bien. Toute chose ne concourt-elle pas au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ? Est-ce que le désert ne ferait pas partie de toute chose ? À l'école du désert, nous apprenons à mieux connaître Dieu. À l'école du désert, nous apprenons à mieux nous connaître. À l'école du désert, nous apprenons à perdre nos illusions sur nous-mêmes. À l'école du désert, nous apprenons la patience, l'humilité, l'obéissance, la dépendance à Dieu et tant d'autres choses encore. À l'école du désert, nous apprenons à entendre et à écouter la voix de Dieu. À l'école du désert, nous apprenons à servir Dieu en faisant sa volonté. Je suis frappé de voir dans la Bible le nombre de personnages bibliques que Dieu a façonnés au désert, que Dieu a préparés pour son service au désert, alors parfois dans des déserts physiques et parfois dans des déserts moraux, spirituels, circonstanciels. Peut-être êtes-vous dans un désert ce matin, un désert moral, un désert spirituel. Peut-être y êtes-vous à cause d'un échec personnel, par votre faute. Peut-être n'y êtes-vous pour rien, mais vous y êtes quand même. Quelles qu'en soient les raisons, avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter dans votre désert ? De vous arrêter pour faire le point, de vous arrêter pour rechercher Dieu, de vous arrêter pour voir ce que Dieu veut vous apprendre. Nous lisons à la fin de notre passage que Moïse s'assit près d'un puits. Alors bien évidemment, il est là parce qu'il a soif. Il devait certainement être exténué, il était peut-être même à bout de force. C'est bien évidemment ce qu'il faut comprendre par ces paroles. Mais je vois là néanmoins une belle image, une image de cette étape tellement importante quand nous sommes au désert, et nous y sommes tous à un moment ou à un autre, cette étape où il faut s'arrêter, arrêter de courir, au risque de tourner en rond dans le désert, s'arrêter, s'asseoir, faire le point avec nous-mêmes et faire le point avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est jamais bien loin. Dieu est toujours prêt à nous relever. Dieu est toujours prêt à mieux nous préparer à le servir. Dieu est toujours là pour pourvoir en Jésus une eau vive qui désaltère, même en plein désert. Et l'apôtre Paul va utiliser cette image aux Corinthiens, en s'appuyant sur un épisode de la vie de Moïse, ce rocher d'Horeb, qui est le Christ, dit l'apôtre Paul, qui suivait le peuple, celui qui désaltère son peuple, même en plein désert. Alors oui, le temps du désert est parfois nécessaire. Et Moïse va y passer les 40 prochaines années de sa vie, à l'école de Dieu. Des années nécessaires pour faire de lui le berger de son peuple. Des années nécessaires pour le transformer, pour le préparer à cette grande mission que Dieu va lui confier. Dans le livre des Nombres, bien des années plus tard, l'Exode a déjà eu lieu, le peuple est sorti de l'Égypte, et nous lisons sur Moïse la chose suivante. Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. Quel changement! Quelle transformation! Où est le prince d'Égypte si sûr de lui, puissant dans ses paroles et dans ses œuvres? Dans l'épisode du buisson ardent que nous allons considérer bientôt, voici ce que Moïse dit à Dieu quand Dieu lui dit de retourner en Égypte. C'est une des choses qu'il lui dit. Il dit, « Pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. » Ah bon ? Tu n'étais pas puissant en parole et en œuvre ? Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles à moi ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesantes. » Moïse a perdu de sa superbe. Il a perdu de sa superbe, mais il est maintenant prêt à être utile dans les mains de Dieu. Moody, que les plus anciens connaissent, le grand évangéliste, un des grands évangélistes américains du 19e siècle, a écrit la chose suivante en parlant de la vie de Moïse. Moïse a passé ses 40 premières années à croire qu'il était quelqu'un, puis les 40 suivantes à apprendre qu'il n'était rien, et enfin ses 40 dernières années à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. Ce n'est pas du misérabilisme, mais c'est la conscience qu'au service de Dieu, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et j'entends par être faible la reconnaissance exprimée de mon besoin de Dieu. Hein, ce n'est pas du misérabilisme. On a tous des capacités, des compétences. Il ne s'agit pas de nier cela, mais c'est de savoir que j'ai besoin de Dieu. Chers amis, à quel stade sommes-nous dans notre vie, dans notre service de Dieu, pour Dieu? Je reprends ces trois stades ici donnés par Moody. Sommes-nous encore convaincus que nous sommes quelqu'un, que le Seigneur, dont le Seigneur devrait être fier et content que nous soyons à son service? Sommes-nous encore convaincus que nous sommes quelqu'un? Avons-nous déjà appris que nous ne sommes rien? Rien pour servir le Seigneur, rien si ce n'est lui qui agit au travers de nous. Expérimentons-nous aujourd'hui ce que Dieu peut faire avec ceux, celles et ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien ou pas grand-chose sans Dieu, mais tout par le Christ qui les fortifie, dit Paul aux Philippiens. À quel stade sommes-nous? J'aimerais terminer en soulignant un point dont parle l'Épître aux Hébreux, qui revient sur cet épisode de la vie de Moïse. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme quelqu'un qui voit celui qui est invisible. Que dit ce texte? Il souligne en particulier une chose importante, il dit que c'est par la foi que Moïse a agi. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte. C'est par la foi qu'il a renoncé à être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est par la foi qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est par la foi qu'il a tenu l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas en flagrante contradiction avec tout ce que nous venons de dire? Et puis, que vient faire le Christ là-dedans? Je crois qu'il faut ici bien faire la part des choses, et en particulier la part du temps. Ce n'est bien sûr pas par la foi que Moïse a tué l'Égyptien. Ce n'est bien évidemment pas par la foi qu'il a agi de son propre chef. Ce n'est pas par la foi qu'il a cherché à accomplir la volonté de Dieu par ses propres forces et par sa propre sagesse. Ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que Moïse a fini par valider toutes ces choses par la foi. Il aurait pu regretter l'Égypte. Il aurait pu regretter les fastes de la cour de Pharaon et les privilèges qui étaient liés à sa dignité. Il aurait pu, le moment venu, regretter d'être maltraité avec son peuple. Mais Moïse a appris à faire confiance à Dieu. Et par la foi, il va tourner la page. Par la foi, il va faire le choix de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses pères, le Dieu de ses frères. Sans doute pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je parle du facteur temps. Mais au fur et à mesure qu'il comprenait qui est Dieu, au fur et à mesure de son apprentissage à l'école de Dieu. Il a pu le faire, dit l'auteur aux Hébreux, parce qu'il regardait plus loin. Il regardait vers la récompense. C'est le regard de la foi qui ne s'arrête pas aux circonstances. Il regardait plus loin vers la récompense, car il savait que ce que Dieu avait à lui offrir était bien meilleur que tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir. Or, bien évidemment, ce meilleur, il ne savait pas encore que c'était le Christ. Il ne savait pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux injecte ça. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de meilleur à attendre. Et ce meilleur, c'était le Christ, même s'il n'était pas encore en mesure de mettre un nom dessus. Et quand il regardait plus loin vers la récompense, c'est en réalité vers le Christ qu'il regardait. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Chers amis, qu'en est-il de nous ? Avons-nous quitté notre Égypte, c'est-à-dire l'esclavage de notre péché ? Avons-nous renoncé à ce que nous étions sans Dieu pour être appelés enfants de Dieu ? Avons-nous accepté l'humiliation du Christ, l'opprobre du Christ, comme une richesse plus grande que tout ce que ce monde peut nous offrir, que toutes les richesses de ce monde, que toutes les notoriétés, et que sais-je encore ? Que le Seigneur nous aide, à l'instar de Moïse, à mettre notre foi en lui et en lui seul. C'est un chemin. Moïse n'a pas tout compris du jour au lendemain. Il n'a pas tout eu juste du jour au lendemain. Il n'a pas... Ça a été un chemin et ça a été un chemin qu'il va faire pendant ces 40 années, en particulier pendant ces 40 années dans le désert. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.